Alors, en fait, pour préparer cette séance, plutôt que vous faire, je sais pas, une sorte de conférence comme ça se fait dans des séminaires, on n'avait pas envie d'une soirée magistrale, enfin, on n'avait même pas tellement envie de parler. On se disait qu'on avait envie de continuer avec vous, et avec vous vraiment individuellement, notre réflexion sur la question sur le titre « Être sujet dans son travail ». Comment est-ce que chacun de vous, donc il est bien question de vous maintenant, enfin on parlera aussi de nous dans notre travail aussi, mais on ne parlera pas des autres, enfin on ne parlera pas des travailleurs, on ne parlera pas des personnels, on ne parlera pas des salariés, on ne parlera pas des employés, on parlera de chacun d'entre vous. Et on voudrait essayer de faire de continuer les entretiens que Yves fait dans son travail et que moi j'ai fait dans cette création, qui consiste à se pencher sur cette question: comment sommes-nous sujets dans notre travail? Être sujet dans son travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'approprie, qu'est-ce qu'on met comme subjectivité dans notre travail, comment est-ce qu'on met notre corps dans notre travail, quel rapport on a dans notre travail aux autres, aux outils, à l'histoire de nos outils, à nos collègues, à nos objets, à l'histoire de notre métier. Est-ce que. Voilà, enfin, donc je me disais que ce serait bien que. Alors il y a plusieurs façons de s'y prendre. Soit on lance un thème très précis, très serré, et puis chacun intervient en disant comment est-ce que lui, il a l'impression de le vivre dans son travail. Je suppose que tout le monde travaille, ou presque. Ou en tout cas, si vous ne travaillez pas tout de suite, vous avez travaillé il n'y a pas longtemps. Et vous travaillerez bientôt. Et puis nous, on va essayer d'alimenter, de nous greffer sur vos expériences, enfin sur. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes, pardon? Alors, non, en fait, oui, il y a plusieurs façons de procéder. C'est soit on prend des grands thèmes. À mon avis, ça va vous terroriser. Parce que je pense que vous êtes déjà terrorisé. Et soit on prend des mots. Parce que, en fait, quand j'ai approché. Alors, je vais vous dire. Enfin, en fait, je vous propose de faire ce que j'ai fait l'année dernière. En fait. L'année dernière, je faisais la chose suivante. J'allais dans une entreprise. Je me plantais pendant une demi-heure devant quelqu'un qui travaillait. Alors évidemment avec son accord, hein, ben là vous n'êtes pas en train de travailler, tant pis, mais je le regardais travailler et je prenais quelques notes dans ma tête. Et après ça, on faisait un entretien d'une heure et demie où je lui disais: pourquoi vous avez fait ça? Comment vous avez fait ça? D'où ça vient que vous avez fait ça? Là, à un moment donné, avec votre main droite, vous faisiez ça. Pourquoi vous faites ça avec la main droite et pas avec la main gauche? Et on commençait à parler du corps dans le travail. On parlait vraiment de l'intérieur du travail, c'est-à-dire de la personne subjective. De la façon dont on s'approprie sur le plan sensible ou intellectuel son travail. Et je trouve que c'était un exercice assez passionnant. Et du coup, moi, j'étais très vexé qu'on ne m'ait jamais posé toutes ces questions. Enfin, finalement, jamais personne n'est venu me demander comment je vivais mon travail. Et en fait, c'est très excitant à faire comme exercice. D'un coup, ça révèle des choses qu'on n'avait pas pensées sur son rapport au travail. Et vous entendez bien que dans le mot travail, en fait, le mot travail n'est pas bon. On pourrait parler plutôt d'activité professionnelle. Voilà. Donc, alors, par exemple, les mots, on pourrait dire. Je pourrais vous les lire tous, peut-être d'abord. Comme ça, vous verrez un peu le champ. Alors, il y a mise en mouvement, sociabilité, désir, fatigue, arrachement, appartenance, silence, impatience, résistance, langage, amitié, douleur, maison, émotion. Reconnaissance, enfermement, intelligence, volonté, métier, corps, solitude, astuce, doute, concentration, temps, sensibilité, plaisir, engagement. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de termes d'adjectifs qui sont assez dynamiques, assez prospectifs, assez positifs. Parce que dans un premier temps, on s'intéresse d'abord à ça, à ce que nous, on investit de façon. Positive, on va laisser de côté dans un premier temps la subordination ou ce qu'on appellerait l'exploitation ou ce qu'on appellerait. Moi, je trouve que ce serait bien qu'on parle de la solitude pour commencer. Alors, j'ai envie de passer le micro à des gens que vous me disiez ce que vous faites et quand est-ce que vous sentez que. Qu'est-ce que ça vous dit cette question de la solitude? Oui, là-bas, il y a une première intervention.
Bonsoir, c'est pas évident ce que vous demandez de faire ce soir, mais je me suis dit je vais initier le mouvement. Donc, si je suis là ce soir pour suivre ce séminaire, c'est parce que j'accorde évidemment un intérêt au travail. En ce moment, je me questionne plus particulièrement sur le travail, puisque je l'ai mis au cœur de mon travail de création. Moi, je suis intermittente du spectacle. Donc, je travaille de manière intermittente.
Et dans quelle branche ?
Théâtre et cinéma. Voilà, donc mon activité professionnelle... Mon activité professionnelle, c'est d'être assistante mise en scène. Et quand je ne travaille pas, je suis metteur en scène. Donc je travaille quand je ne travaille pas. Là, en ce moment, je m'intéresse plus particulièrement au monde du travail. Parce que donc, je vais créer une pièce sur le monde du travail. Mais là, vous parliez de la solitude. Pour le coup, monter une pièce de théâtre, être dans l'état réflexif, etc., c'est être vraiment très seul par rapport à un travail qui ensuite va être montré à un public. Donc, voilà, là, pour le coup, c'est vraiment un travail très solitaire. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut vous apporter quelque chose dans le débat.
Oui, c'est bien. Alors, travaillons cette solitude. Ce serait bien de se... Parce qu'en fait, quand vous dites, pour l'instant, vous faites un travail de recherche, c'est-à-dire que donc vous lisez des livres, vous rencontrez des gens.
Voilà, je vais à des séminaires.
Vous allez à des séminaires. Donc, c'est que vous, en fait, vous faites l'inverse d'être seul. En fait, vous questionnez le sujet à travers des tas de gens et vous venez là où on est. Ce soir, par exemple, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en train de travailler pour votre sujet.
Ben oui, absolument, oui, oui. Oui.
Parce qu'il y a plusieurs stades de solitude. Vous avez un métier qui est très, très, très temporalisé. Il y a des métiers dont le développement, je dirais, de l'activité dure un quart d'heure, d'autres, ils durent 2 mois, et vous, ils durent plusieurs mois.
Oui, bien sûr.
Donc, il y a des étapes.
Oui, alors autant pour la première activité qui est d'être, par exemple, sur un projet pendant... 5-6 mois où on va être là je dirais investi corps et âme dans le travail avec des horaires de travail qui sont très larges, qui sont très flexibles, on nous demande d'être extrêmement flexible sur pas mal de choses, et puis après je vais dire les 6 autres mois de l'année où on va être au chômage à proprement parler, mais où, pour certains d'entre nous intermittents, on va être dans une autre démarche de travail. Qui là, va pas être, un travail qui amène un travail, je dirais, gratuit. Un travail qui n'est pas dans une logique commerciale, on va dire. Dans une logique de faire rentrer de l'argent, mais qui est dans une autre logique. Mais je m'éloigne un peu de votre sujet sur la solitude.
Mais quand je vous disais ça tout à l'heure, je me disais peut-être que cette solitude-là, peut-être la plus grande solitude, ce sera quand vous donnerez votre pièce. Moi, la solitude que je ressens, c'est pas celle tellement de savoir si je travaille avec des gens ou pas, ou à combien on est quand on travaille, mais c'est celle qui consiste à se dire que tout le travail que vous avez fait, que vous allez faire pour préparer cette pièce, toute cette sédimentation d'idées, de rencontres que vous aurez faites, il n'y a que vous qui l'aurez faite. Et la pièce que vous allez présenter à la fin, vous serez la seule qui saurait tout ce qu'il y a dedans, on va dire, enfin, ou qui saurait tout ce que vous y avez mis, etc. Et à un moment donné, confronté au public, vous allez vous retrouver dans une infinie solitude, que les gens n'y voient que le résultat, alors que vous êtes dans une globalité absolument énorme d'un dispositif qui a accouché de quelque chose. C'est-à-dire que cette solitude, ce n'est pas une question de solitude physique ou sociale, c'est une question de solitude de partager l'histoire. D'un travail, et que l'histoire du travail fait partie du travail.
Mais du coup, c'est valable pour tout le monde, parce que cette solitude-là, ça peut être exactement la même solitude qu'une personne qui va avoir travaillé 1 mois, 2 mois sur un projet, elle va être face à son patron, et il y aura la même solitude. Le patron ne va pas se questionner sur toutes les démarches de la personne, les doutes qu'elle a eus quand elle a... quand elle a fait tel et tel paragraphe ou voilà, et donc cette solitude là n'importe qui de toute façon peut la vivre à un moment donné quand il est face à une personne qui doit lui redonner, je dirais, une, une reconnaissance face à son travail. Oui, donc après, c'est valable un peu pour tout le monde aussi, pour, en tout cas pour les gens qui, dans leur travail, ont à un moment donné à montrer un objet fini. Enfin, oui,
une partie.
Quelque chose de terminé, qui ont à un moment donné à montrer ce qu'ils ont fait. Enfin,
Il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, ouais, ça en touche à... Oui. Je crois qu'il faut...
Merci, bonjour. Moi, je pensais, pendant que vous parliez, qui est seul devant son travail, je pensais à l'artisan, par exemple, face à son travail matériel à réaliser, au paysan face à sa charrue ou sur son tracteur, à la ménagère, qu'elle ait une activité salariée ou non par ailleurs, qui se retrouve seule avec son ménage à faire le samedi matin, voire quelques heures de plus en semaine. Et là, on est, je pense que dans ce genre de travail-là, on est vraiment seul. Et je me posais la question, le travail non professionnel est-il du travail ? Mais c'est en dehors de la question de la solitude. Voilà, donc, quand vous disiez solitude, je reprends trois thèmes. L'artisan face à ce qu'il est en train de fabriquer, le cordonnier qui répare une paire de chaussures, etc. Le paysan sur son tracteur et la ménagère face à la poussière aspirée.
Alors, plutôt que votre proposition, mais plutôt que parler des autres, est-ce que vous pourriez parler de vous ? C'est quoi votre métier ?
Eh bien,
c'était quoi
là, ça fait 3 ans que c'est fini. J'étais statisticienne. En gros, les dernières années, je publiais des chiffres. Je publiais les chiffres de la comptabilité nationale.
Est-ce que ce thème de la solitude vous parle quand vous...
Il y avait une partie. C'était un travail, je veux dire, qui avait une finalité éminemment publique, puisqu'une publication, par définition, on doit mettre à disposition, on prend de l'information quelque part, on la transforme d'une certaine manière, et on va ensuite la mettre à disposition du public. À la fin, on mettait à disposition gratuitement sur Internet. Donc, je veux dire, c'était vraiment du public. Mais entre-temps, compte tenu de la charge de travail, en fait, j'étais à peu près seul sur ce domaine-là. Il y avait tout un moment de travail où je m'organisais comme je voulais. Et il fallait qu'à telle date, j'ai récupéré de l'information. J'avais des critères pour savoir si c'était bon ou si c'était faux. Je retournais éventuellement vers les producteurs. Et puis je faisais de la mise en forme, mais je savais que de toute façon j'avais une gestion par échéance, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait publier à telle date et puis sous telle forme. Donc il y avait une partie de solitude, mais physiquement j'étais pas seul, il y avait des gens dans mon bureau, je rencontrais les collègues à la cantine, je me retournais vers les producteurs quand il y avait des problèmes, j'avais des liens avec les informaticiens. Enfin bon, j'étais pas seul sur une île déserte pendant 3 mois, hein. Même si d'une certaine manière je travaillais seul.
Et vous avez dit, je m'organisais comme je voulais. Est-ce que c'est une chose importante, ça ?
Ah bah oui. Oui, savoir si je fais ça le lundi ou le mardi, ou si je le fais le mercredi, ou si... si je tasse plus vers le début ou plus vers la fin. L'important, c'était l'échéance. Enfin, la qualité. L'échéance et la qualité. Donc, entre les deux, je pouvais effectivement m'organiser à peu près comme je voulais.
Bon, on va essayer de rebondir sur quelqu'un d'autre. Allez, est-ce que quelqu'un peut essayer de... Oui, il y a quelqu'un derrière. Juste là. Ah, le câble n'est pas assez long. Ah, ça, c'est la solitude...
Merci. Rebondir et essayer de relancer un petit peu la discussion sur la solitude au travail, par rapport à ce qu'a dit la jeune fille intermittente du spectacle, C'est vrai que par rapport à ce que vous disiez sur le fait d'être, de devoir à un moment rendre des comptes et d'avoir un sentiment de solitude au travail, moi je crois qu'on peut effectivement l'avoir, comment dire, ce sentiment, tout le monde a certainement a dû le ressentir dans les moments finalement de doute sur la qualité de ce qu'on a fait, son assurance par rapport au travail fini, si tant est qu'il le soit un jour. Mais moi, je n'ai pas beaucoup réfléchi sur la question de la solitude au travail. Je suis avocat, moi. Donc c'est vrai que c'est un métier pour lequel on a le sentiment d'être seul, puisque on prend une situation du début jusqu'à la fin, et généralement, ce n'est pas un travail qui suppose de travailler à plusieurs. Et pour autant, j'ai jamais eu un sentiment de solitude. Parfois, un sentiment, de doute, de solitude au sens finalement de souffrance quand on n'est pas sûr de soi et qu'on doit rendre compte et d'être un peu seul face à ça. Et paradoxalement, même si c'est un travail, donc je disais que je fais seul, parce que c'est pas vraiment un métier qu'on fait à plusieurs. On peut pas réfléchir à plusieurs, on peut pas mettre de sa sensibilité à plusieurs. Enfin, en tout cas, c'est comme ça moi que je le ressens dans mon travail. J'ai pour autant pas senti de solitude à proprement parler. Par contre, ce que ça m'inspirait comme ça, spontanément, cette question de la solitude au travail, je me suis dit, moi, que effectivement, je travaillais seule, mais qu'en plus, mon travail ne pouvait pas exister. Paradoxalement, je travaille seule, je veux dire, mais mon travail ne peut pas exister du tout sans les autres. C'est-à-dire que... mais il y a certainement beaucoup de travail comme ça, mais moi je parle du mien. Il me semble que quand on fabrique quelque chose, que son travail a pour objet, par exemple quand on est artisan ou quand on fabrique une chose, il me semble qu'on peut le faire sans les autres. Alors bon, bien sûr, en disant ça, je réalise que ça n'a pas de sens, parce qu'il faut bien sûr que si c'est un objet qui est destiné à la vente, il rencontre des acquéreurs, des choses comme ça. Mais moi, mon travail, il existe. Enfin, si je suis toute seule, mon travail n'existe pas. Il n'existe que si on vient me voir, en fait. Voilà, c'est juste ça que ça m'inspire.
Je rebondis. Oui, tout à l'heure aussi, quand je parlais de solitude, moi non plus, je me sens pas forcément seule non plus dans mon travail. En fait, je voulais juste, parce que vous lancez un thème qui est pas évident. Hein. C'est un exercice qui est pas évident. Je vois que, enfin, on essaye d'amorcer un peu la discussion, mais remettre la subjectivité au cœur du débat, c'est tout nouveau. C'est les gens, que des gens qui travaillent parlent d'eux-mêmes et soient plus dans un esprit de groupe ou dans un esprit d'entreprise ou dans un esprit avec les collègues. C'est difficile de se positionner soi-même seul, justement. Bien sûr qu'on fait partie d'un groupe, bien sûr que sur un tournage de film, on fait partie d'une équipe ou... Donc voilà, c'est juste pour rebondir sur le côté solitude. Mais en attendant, on est toujours seul, parce qu'on a toujours un rapport, je pense... Enfin, tout à l'heure, vous parliez de subjectivité et de cordon de travail, etc. Ben, notre rapport à ce groupe-là, ou à cette entreprise, ou à... Je sais pas, ou à... Il est toujours subjectif. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un veut rebondir. Ou...
Mais...
On peut pas épouser un esprit de groupe en permanence. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on est forcément seul dans son travail, même si c'est un travail d'équipe.
Mais par exemple, la notion de travail d'équipe, elle est assez complexe, hein. Elle est assez difficile. Et je me demandais s'il y avait parmi vous, par exemple, des gens qui... tout à l'heure, on a une avocate qui dit qu'elle travaille seule, mais qu'elle ne peut pas se passer des autres. Mais en fait, son activité... Et donc imbriqué dans l'histoire des autres, et en même temps toute son activité, elle, consiste est-ce qu'il y a des gens qui réellement travaillent avec d'autres? Je pense par exemple, j'ai toujours en tête, parce que quand j'ai eu fini de faire ce travail l'année dernière, il y a eu la première réflexion qu'on m'a faite, c'est on m'a dit tu n'as parlé que des gens qui sont seuls dans leur travail. Et pourtant, j'étais allé dans des usines, j'étais allé au Gobelin, j'étais allé à la RATP, Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde travaille tout seul. Et c'est, les gens qui me parlaient comme ça, c'est des gens qui d'ailleurs n'étaient pas de France, qui étaient d'Afrique. Et je me disais effectivement, où est-ce qu'il y a du travail qu'on fait à plusieurs ? Pas du travail où on se passe un objet, comme la chaîne, hein, et où finalement on travaille seul chacun sur un objet. Mais par exemple, les porteurs d'un cercueil. Quand on est quatre à porter un cercueil, on est réellement quatre à le porter. S'il y en a un qui se décale, s'il y en a un qui boite, s'il y en a un qui porte un peu moins, c'est absolument explicite que les trois autres portent plus. Est-ce que vous auriez un exemple dans vos activités d'un travail où vous êtes à quatre à porter un cercueil? Oui. Est-ce que le micro peut revenir là? Ah, pardon. Oui, ben...
Après.
Oui, donc, moi et ma voisine, nous sommes universitaires, donc je faisais remarquer que nous portons cercueil de la LRU. C'était pas la loi de réforme des universités. On sait d'ailleurs pas bien si c'est le cercueil de la loi ou le cercueil de l'université. On n'est pas très sûr pour l'instant. Mais effectivement, c'est un mouvement qui a été porté très collectivement, je pense. Mais au-delà, je pense que dans la vie d'universitaire, nous, par exemple, on travaille dans un petit département, mais l'ensemble des formations qu'on développe... sont pensées et portées collectivement. On est une petite équipe, on est cinq. Mais je dirais que même si à un moment, il y a quelqu'un qui prend la direction pratique ou l'organisation, les plannings, etc., le projet, le contenu de la formation, le contenu de la licence, le contenu du master, c'est vraiment un projet collectif.
Et s'il y en a un qui a la grippe, est-ce que les quatre autres sont obligés de s'arrêter ou est-ce qu'ils chancellent ou est-ce que...
Alors, oui, trébuche, non, ça c'est les mauvais jours, mais la plupart du temps, les autres portent plus, mais je dirais dans commun accord. Pas seulement quand il y a la grippe.
Oui, il y avait une intervention là-bas. Mais...
Oui, sinon peut-être pour ajouter sur l'aspect juste... Il y a cet aspect très collectif de l'enseignement et de la conception de la formation qui est évidemment... Il y a le portage du projet, puis il y a évidemment l'enseignement, la partie collective avec les étudiants, qui est quand même une chose qui organise le travail collectif de préparation de la formation. Il y a aussi faire partie d'une université qui est un très grand collectif avec ses bonheurs et ses malheurs. Et puis après, moi j'allais dire, avant la question est-ce qu'on porte à plusieurs, j'allais dire, moi la solitude dans mon travail universitaire, c'est ce qui manque toujours. Il y a toujours trop de monde, il y a toujours... trop de choses à faire en collectif. Or, le travail de recherche tel qu'en tout cas il se pratique dans ma discipline passe pour une part par un travail, par un besoin de travail solitaire chez soi, en bibliothèque. Moi, je travaille beaucoup avec le corps, donc aussi dans une pratique. Et que ça, c'est ce qui manque toujours parce que le collectif, dans ses mauvais aspects, notamment ses exigences administratives, met une pression qui rogne toujours sur le temps de la solitude et le temps du travail personnel, qui est orienté vers le collectif, parce qu'on travaille pour publier, donc on travaille un peu comme la question des intermittents du spectacle, on travaille en vue d'un projet public, on ne travaille pas dans une solitude coupée des autres, mais néanmoins, on aurait parfois besoin d'avoir un peu plus de temps de solitude pour savoir ce qu'on a à transmettre ou à travailler ou à développer en direction du collectif.
Alors là, vous venez d'introduire un mot qu'on n'avait pas encore prononcé, qui est le mot solitaire, qui évidemment, dont on voit qu'il est absolument différent du mot solitude, et que justement, on tourne autour de ça depuis tout à l'heure, à savoir est-ce qu'on peut être solitaire dans son travail sans être dans la solitude, et on peut être effectivement entouré de monde, ça c'est comme dans la vie, et avoir des sentiments de solitude, en particulier dans les moments de doute dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire un moment de doute qui ne peut pas être partagé, ou un moment de non-reconnaissance, ça produit de la solitude. C'est-à-dire ça produit le fait qu'à un moment donné, on se retrouve confronté à une non-réponse collective, ou à un abandon du collectif, puisque le travail qu'on produit n'est pas reconnu.
Oui, je suis là, mais je ne peux pas me mettre dans ton regard, parce que je ne peux pas tirer le micro plus... Voilà, je suis vraiment en bout de micro. Donc moi, je voulais rebondir aussi par rapport à ce qui a été dit là sur par l'intermittente du spectacle. Bon. Moi, je crois que ce qu'il y a, c'est que, en fait, la solitude, c'est plutôt se sentir seul qu'être seul dans son travail. Et j'ai l'impression que... parce que moi, j'ai toujours... Je travaillais dans le cinéma comme assistant réalisateur, comme réalisateur parfois, comme producteur. Je veux dire, bon... Et j'ai toujours donc travaillé collectivement avec des gens, etc. Mais il arrive à un moment où même quand on n'est pas dans une tâche, parce que quand on disait tout à l'heure, on se retrouve à un moment où il y a la question de la reconnaissance du public, etc. Mais ça, c'est valable pour le créateur, le metteur en scène. C'est pas forcément valable pour les membres de l'équipe qui ont un rôle, disons, pas directement créatif. Et moi, je peux dire que même quand, comme assistant réalisateur, il y a des moments où tu es totalement en phase avec le travail des autres, avec ce qui paraît être la demande du film, du metteur en scène, enfin même d'une demande collective, donc du travail qu'il y a à faire. Donc là, même, on ne se sent jamais seul, même si, par exemple, à un moment, on est amené à travailler tout seul dans un bureau, à faire le plan de travail ou la feuille de service. Alors qu'en revanche, on peut se sentir très, très seul à la fin d'une nuit de tournage où tout le monde est crevé et où le rôle de l'assistant, c'est d'amener tous les gens jusqu'au bout du tournage, du programme à faire, etc., qu'on tire tout le monde, qu'on n'y arrive pas. Et on se sent effectivement, par exemple, très, très seul. Bon, comme producteur, on peut aussi sentir aussi très, très seul quand on sonne à toute la porte des diffuseurs, etc., et que personne n'arrive à entendre le projet qu'on veut mettre en œuvre, etc. Bon, donc, je crois que j'ai l'impression que c'est ça surtout, c'est-à-dire que même quand on travaille collectivement, le moment où on rencontre la solitude, c'est parce qu'on se sent seul et qu'on n'est plus en phase, en fait, avec son travail, quoi, d'une certaine façon, ou avec la place qu'a son travail dans le collectif de travail, d'une part, ou alors par rapport effectivement à ce que tu as déjà dit, mais qui était plus la demande sociale ou la reconnaissance. Mais je crois même que dans l'acte même, dans le vécu du travail, il y a ce moment-là, quoi. Et ce moment où on se sent seul, moi, en tous les cas, moi, quand je l'ai ressenti dans ce genre de boulot, c'est à ce moment-là.
Peut-être on pourrait passer à un autre sujet, mais tu veux dire un truc. Comme vous avez remarqué, c'est pas facile de travailler avec Nicolas, parce que il a toujours des idées comme ça. Voilà. Donc, c'est pas facile, mais en même temps, c'est nécessaire. Hein, voilà. Donc là, ce soir, il avait décidé de... Je l'ai appelé, je lui ai dit comment on fait. Alors il m'a dit, ben, on fait rien, on va là-bas. Et on demande aux gens de nous dire comment ils sentent. Quoi. Voilà, alors ça, je peux vous confesser que ça a été un moment de solitude pour moi. Parce que... Évidemment, moi, c'est pas du tout comme ça que je fais d'habitude. Hein. Mais en même temps, c'est un moment de solitude. C'est un moment de solitude que je peux supporter, que j'ai pu supporter. Voilà. Parce que quelqu'un d'autre que lui m'aurait dit, on va faire comme ça, j'aurais dit non, je fais pas comme ça d'habitude, donc je vais faire comme d'habitude. C'est-à-dire, j'aurais dit pendant 20 minutes comment je voyais le problème, et puis après, on aurait changé. Pourquoi j'ai pu supporter ça, c'est-à-dire le risque, hein. Ben, vous le sentez bien, tout le monde est en train de le vivre, quoi. Il y a le risque de, que ça prenne ou que ça prenne pas, quoi. Hein. Pourquoi j'ai pu supporter ça, précisément parce que derrière il y a un travail collectif, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'histoire de pas seulement de notre coopération les deux, parce qu'on n'a pas coopéré que tous les deux, du travail qu'on a fait ensemble sur la création musicale qu'il a faite, quoi. S'il n'y avait pas l'histoire de ce travail collectif, du fait que j'ai pu vérifier à plusieurs reprises qu'en s'y prenant comme ça, au bout du compte, ça marche un peu, même parfois ça marche très bien. Donc, s'il n'y avait pas cette... le contraire de la solitude, je pense que j'aurais pas été capable de supporter la solitude dans laquelle je me suis placé pour préparer cette chose-là. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que pour moi, à la limite, l'expérience, ça sert à être capable d'être seul, quoi. Voilà. Je pense que le travail, le, l'expert même, hein, j'ai des idées assez précises en tête, hein, bon, on va pas développer ça, mais celui qui est bon quoi, dans son travail, c'est celui qui est capable de supporter d'être seul, et parfois durablement contre le monde entier. Quoi. C'est souvent ça la grande expertise. C'est celui qui est assez fort, c'est-à-dire finalement assez plein des autres. Fort, ça ne veut pas dire, tout seul, hein, au sens du moi bien plein, mais ça veut dire suffisamment, qui a fait suffisamment d'expériences, qui a traversé suffisamment de contextes, qui a traversé suffisamment d'épreuves, et au fond qui est capable, bah oui, de supporter, de prendre le risque d'être seul. Autrement dit, peut-être on pourra discuter de ça aussi. Souvent on est dans l'idée, alors il y a soit le collectif, soit l'individu, fameux problème classique. Parce que nous, quand on fait de l'analyse du travail, on répète sans arrêt que le collectif, c'est important. Quoi. Et moi, je me suis toujours méfié du collectif, lorsque le collectif, ça consiste à être tous d'accord. Quoi. Et par contre, pour arriver à avoir un point de vue personnel, je trouve que c'est à la fin qu'on l'a, et qu'on l'a lorsque précisément on s'est donné la peine, et il faut se la donner la peine, hein, de traverser des collectifs et des collectifs et des collectifs pour arriver à... finalement à faire ce travail de décantation qui permet d'être seul et d'avoir un point de vue personnel. Mais vous voyez que du coup, le personnel, ce n'est pas le contraire du collectif. Hein. On pourrait dire le personnel, c'est quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de collectifs et qu'on a digéré tout ça et qu'on est capable, parce qu'on a digéré et parce qu'on respecte profondément le collectif, éventuellement de se tourner contre le collectif. Voilà, c'est ce que ça m'inspire, hein, ce genre de situation dans laquelle je me suis trouvé placé. Je pense que si je suis venu assez tranquille là ce soir comme ça, en me disant on risque d'être un peu seul dans la situation, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'histoires collectives derrière, quoi. Beaucoup pas seulement le travail qu'on a fait en commun, mais ce qu'il y a derrière ton travail, ce qu'il y a derrière le mien, parce que derrière il y a quand même des dizaines de personnes, quoi. Hein. Voilà. Lui, il est encore plus collectif que moi, des centaines, il a dit.
Non, mais toi, je pensais à toi.
Pareil, pareil. C'est aussi parce que... Voilà, alors on fait une petite... finalement, on fait une petite expérience, mais moi, avec Nicolas Fries, j'en ai fait quelques-unes, donc c'est pour ça que je continue. Hein. On fait une petite expérience, c'est-à-dire supporter ce moment de solitude dans lequel, finalement, il a décidé qu'on allait se placer ce soir. Mais pour faire ça, c'est-à-dire... Pour pas se sentir seul, je trouve que l'expression est importante, quoi. C'est pas pareil d'être seul et de se sentir seul. Moi, je dirais qu'on se sent seul si on n'est pas complètement capable d'être seul, quoi. Voilà. Mais être capable d'être seul, ça suppose de transporter avec soi beaucoup d'histoires collectives. Voilà. Je sais pas, j'essaie de dire quelque chose, puis comme tout le monde, moi, je suis embêté. Hein. Hein ?
Alors moi, j'ai envie de proposer, un autre sujet, qui est un sujet...
Tu as décidé que c'était fini sur cette question ?
Non, mais je pense que... Non, ah bah oui, t'as raison, on peut peut-être voir ce que...
Parce que là, ça me met dans une situation où je dis le mot de la fin, ça
m'embête. Oui, non, mais parce que pour moi, ça nous relance, je pensais que ça allait se coudre, mais peut-être, t'as raison, il faut peut-être réagir d'abord sur ce qu'a dit Yves.
Non, mais on peut faire comme on veut.
Comme vous voulez.
Si on réagit pas, ça m'embête pas.
Oui, alors il y a deux réactions, voilà. Bon, alors.
Oui, bon, bah, y a des têtes qui vont tomber là. Non, je comprends très bien qu'il y a la solitude dont tu parles, c'est une solitude qui est choisie. Je voudrais quand même signaler que la plupart des personnes dans ce pays subissent la solitude en tant qu'exclusion. La solitude renvoie la plupart du temps à une exclusion. Et quand elle est subie, elle n'a pas du tout le même caractère et la même force que quand elle est choisie. C'est quand même à donner. Pour moi, solitude, ça renvoie quand même à exclusion. J'aime bien aussi la part plutôt de parler d'intime et de collectif, de mettre en tension une intimité qu'un collectif dans des choix de travail, comment on s'investit ou comment on s'implique d'une manière intime par rapport à un travail socialisé. Mais... Parce qu'encore une fois, moi je sais que je suis graphiste social, que je me définis comme ça. Quand je travaille avec des comités de chômeurs, leur slogan, c'est « plus jamais seul hein, » pour ce qui est de la PES. Donc c'est vrai que ce n'est pas non plus une chose recherchée. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. J'aimerais voir comment on pourrait parler de l'intime et du travail. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce qu'il y a une sphère privée à un moment donné ? Parce que là aussi, c'est comme travail et emploi. Si on vit le travail comme une activité personnelle... on peut s'impliquer d'une manière plus intime que si on le subit comme une activité exclusivement de survie. Bon, voilà. En tout cas, cette idée d'exclusion paraît intéressante à noter.
Oui.
Parce que c'est... Il y a quand même une partie socialisée dans toutes ces discussions qui n'accaparait pas trop, quoi.
Bon, on peut discuter.
Il y avait une intervention devant. Du coup, le câble... Tout le monde va être attaché à la fin.
Oui, je voulais juste parler sur... Le fait de travailler vraiment collectivement, moi je ne travaille qu'à deux, et je trouve que jusqu'à présent j'ai rencontré quasiment presque personne qui travaille réellement à deux, parce que faire un projet, comme vous dites, à l'université, c'est déjà une petite chose. Enfin, les porteurs de cercueils, oui, mais c'est très bref. et moi je travaille depuis 25 ans avec quelqu'un, on fait le projet, on le mène de A jusqu'à Z tout le temps. Et je trouve que c'est assez rare. Mais en même temps, par rapport à ce qui a été dit, voilà, c'était juste A, c'est très riche, c'est assez rare de vraiment travailler à deux. Puis en plus, comme ça coûte un peu plus cher que de travailler seul pour faire la même chose, souvent on nous dit, ah ben non, mais ça coûte trop cher, donc on préfère prendre quelqu'un de... voilà, avec quelqu'un de seul plutôt qu'à deux. Et puis, par rapport à ce qu'a dit le monsieur, justement, moi, je travaille sur l'intime public, hein, c'est-à-dire que les gens, j'aide les gens à exprimer leur intimité publiquement, et que, de, tout, que c'est... voyez, j'ai perdu mon idée. OK, j'arrête là.
Ça va revenir, ça va revenir.
Je vais peut-être dire un mot sur ce qu'a dit Gérard Paris-Clavel. Bien sûr, quoi. Je suis vraiment d'accord. J'ai pris de problème de l'autre côté, quoi. Hein? Mais bon, parce que d'habitude, je le prends plutôt comme toi. Mais dans les circonstances où je me trouvais, j'avais envie de parler, de, comme Nicolas nous l'a demandé, un peu de ma propre place, quoi, dans la situation où on est là, celle-là. Mais bien sûr, le fond du problème aujourd'hui, c'est ça. Hein? C'est-à-dire... la solitude subie, c'est-à-dire le poison de l'isolement. Et c'est pas tout à fait la même chose que finalement la capacité d'être seul. Et paradoxalement, avec le poison de l'isolement qui est en train de se répandre, ça peut faire rêver, ça peut faire rêver au mauvais sens du terme, c'est parce que ça peut devenir le cauchemar, ça peut faire rêver d'un collectif dans lequel on se dissout, quoi. On sait bien, hein, dans l'histoire sociale, à quel point le poison de l'isolement peut conduire au désir de la foule. Alors, ça, je suis absolument d'accord. Je pense même que l'un des problèmes de la situation d'aujourd'hui, c'est qu'à force d'intoxiquer tout le monde à la solitude, c'est-à-dire de contraindre à être coupé, séparé des autres, quoi. Ça peut provoquer une sorte de désir d'unité imaginaire comme ça, et ça peut amener à se trouver des chefs, qui rétablissent un peu d'unité là-dedans, quoi. C'est dangereux, quoi. Le poison de la solitude, c'est dangereux parce que ça peut se retourner en désir d'homogénéité, quoi. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est pas ce que je parlais, mais d'une certaine manière, moi, j'irais jusqu'à soutenir que, à force d'empoisonner les gens à la solitude, on les empêche d'être capables d'être seuls. C'est-à-dire, au sens où je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de trimballer en eux-mêmes des collectifs multiples dans lesquels auxquels ils se mesurent, qu'ils traversent, auxquels ils s'affrontent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je pense que c'est très important de pas opposer comme ça le collectif et l'individuel, mais je partage complètement l'idée que c'est un vrai poison. C'est un danger très, très moderne que de mettre les gens dans une position où ils se sentent seuls, quoi. Alors, quand, C'est terrible en même temps. Les gens de la peste que tu évoques, je connais bien cette association de chômeurs, ou combien méritante. Et bon. Mais quand on réfléchit bien quoi, sur ce slogan, plus jamais seul, c'est magnifique et en même temps plein de risques. Quoi. Je pense que ce qui a été dit tout à l'heure sur votre travail universitaire, bon, évidemment, on pourra toujours dire c'est là aussi, c'est l'université, donc c'est facile, quoi. Mais je pense que dans beaucoup de situations professionnelles que je connais, même en usine, cette idée que finalement le collectif ne doit pas être le contraire, quoi, de la vie personnelle, et que ça doit être au contraire une ressource pour la vie personnelle, mais pas la source de la vie personnelle. Voilà. Ça va être une ressource très importante pour la vie personnelle et qu'au fond, il faut beaucoup de collectifs en soi pour arriver à avoir envie d'être seul. Parce que là, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ce n'est pas simplement l'être, hein, c'est avoir envie de l'être. Et moi, je suis persuadé que enfin, je ne suis pas persuadé, je sais, je pourrais le montrer, que dans des métiers dits subalternes, enfin, les métiers qui sont empoisonnés un peu comme ceux que tu évoquais tout à l'heure, dans des usines, dans le travail des ouvriers, il y a encore beaucoup d'ouvriers hein, dans ce pays quand même, la possibilité d'être seul, pas contre le collectif, mais j'allais dire avec le collectif en soi, mais au-delà du collectif, c'est quelque chose de très important. C'est pas la propriété, je pense que vous serez d'accord, des universitaires. Quoi. Voilà. Je pense que c'est une jolie tension. Voilà.
Alors, moi, je trouve ça bien de revenir à nous. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est bien parce qu'on a envie de s'extraire tout le temps. Donc, c'est ouais. Ça qui est bien. Alors que si on est toujours extérieur, on descendra jamais. Enfin, on aura du mal à descendre chez nous. Donc, repartons de nous. Et je voudrais rebondir, enfin, je voudrais continuer ce que vous avez avancé, l'idée de l'intime, et donc de savoir comment est-ce que l'intime joue dans le travail. Bon, c'était une suite logique de la question de la solitude. Et je voulais vous proposer un thème un peu suivant. C'est celui de la... Quand nous sommes au travail, nous sommes deux personnes, au moins deux. Enfin, on vient de voir que nous sommes très nombreux. Chacun de nous est très nombreux, mais nous sommes au moins deux. Nous sommes la personne subjective, la personne charnelle, la personne sexuée, la personne avec son prénom, son nom, son histoire, ses ascendants et ses descendants, avec sa maison, avec sa famille et tout ça. Et puis nous sommes la fonction. C'est-à-dire nous sommes celui qui remplit la fonction qui lui est demandée, ou qu'il se demande, pour ceux qui travaillent sous leur propre... Et cette dichotomie, cette séparation entre qui je suis dans le travail et qui je suis moi-même, va créer des tensions terribles et permanentes où on va se demander à quel moment est-ce que je suis, c'est moi qui dis ce que je fais, à quel moment c'est mon cahier des charges, on va dire. C'est la personne et la fonction. Alors, pour donner un exemple, par exemple, j'avais travaillé l'année dernière avec des gens de la mairie de Saint-Denis, quelqu'un qui est à l'accueil et qui s'occupe, par exemple, de recevoir les personnes qui viennent à la mairie pour avoir un logement ou pour avoir le RMI. Et qui sont confrontés donc à avoir une attitude de fonctionnaire, c'est-à-dire de recevoir quelqu'un qui vient pour une demande, et en même temps de calculer la part d'elle-même qu'elle va mettre dans l'accueil de cette personne et dans le traitement de son dossier, pour arriver à trouver une juste mesure entre ce qu'elle doit mettre de sa personne pour rendre la fonction sublime, enfin fantastique, et ce qu'elle doit mettre de la fonction pour... à la fois protéger sa personne et nourrir sa personne et ne pas confondre que la personne en face ne confonde pas qu'elle a en face d'elle vraiment un employé de la mairie. Et donc cette espèce de... On va retrouver ça chez les chauffeurs de bus, on va retrouver ça chez tout le monde. Et donc je voulais vous demander, dans vos métiers, donc repartons chez nous, repartons dans nos corps, est-ce que vous pouvez réfléchir une seconde sur comment ça se passe, des situations où cette question s'est posée? Où vous avez été confronté. Alors, par exemple, il y a la question des refusants. Vous avez vu ce bouquin qui est sorti sur les refusants. Ce n'était pas des résistants, c'est des gens qui refusent de faire quelque chose qui leur est demandé. Ils ne résistent pas pour des raisons idéologiques. Ils disent simplement je ne veux pas faire ça. Dans l'ensemble des choses qu'on me demande, ça, je ne le ferai pas. Bon, alors, c'est cette question, par exemple, du refusant, mais ça peut être aussi plein d'autres situations dans lesquelles on en fait beaucoup plus que ce qu'on nous a demandé. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir. Quelques expériences de cette
la façon dont cet intime s'investit dans la fonction et, ou au contraire résiste, ne cherche à ne pas rentrer trop. Il n'y a pas une infirmière dans la salle? Non, parce que c'est important, c'est des métiers. Une infirmière ou un réparateur de chez Darty? Non plus? Oui? La grève du zèle, oui, très bien. Prenez le micro. Peut-être le venez au micro, parce que le câble n'est pas assez long.
Du coup, je ne fais pas la grève, là. Mais ça s'appelle un phénomène qui arrive souvent au travail, qui est la grève du zèle. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est investi, qu'on s'est impliqué, qu'on a trouvé une soi-disant intimité au travail et qui pourrait éventuellement se mettre dans les enjeux collectifs, au fur et à mesure de l'investissement, il peut y avoir des enjeux collectifs qui changent. Et refuser, effectivement, je l'ai fait en me protégeant. Hein.
Et vous pouvez citer un peu plus, raconter un peu, peut-être un peu plus
Dans l'économie, essentiellement, dans l'économie sociale et l'économie solidaire et le commerce équitable, exactement. Les mondes d'économie sociale et les mondes d'économie solidaire et les mondes d'économie privée ne sont pas tout à fait faciles à s'acculturer, on va dire. Mmh. Aujourd'hui, c'est sur quoi je tends et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur l'acculturation de ces différents mondes. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est dans le travail, le refus, ça passe aussi par cette fameuse grève du zèle que beaucoup de gens connaissent, qu'on fait seul ou en collectif. Hein. Et c'est une façon de refuser les choses. Ça, c'est quand on s'est surinvesti, comme moi j'ai fait. Maintenant,
et ça se manifestait comment? Vous faisiez comment, cette grève du zèle?
En fait, il s'agit, lorsqu'on se surinvestit en création d'entreprise, on peut arriver à, c'est pas pour soi, d'un seul coup on comprend pas pourquoi les enjeux collectifs changent comme ça d'un seul coup d'un seul, dans des sociétés qui sont parfois dirigistes à cause du collectif dont vous parliez, qui deviennent dirigistes d'un seul coup d'un seul parce qu'il faut absolument aller vers un cap rentable et on parle plus de viabilité. La grève du zèle, c'est non, ça va pas là où je vais, où je veux que ça aille, où ça devait aller, où on était entendu que ça aille.
Oui, mais essayez d'être plus concrète. La grève du zèle, ça vous faisiez, par exemple, strictement ce qu'il fallait faire, et vous essayez surtout de ne pas vous investir plus ou de ne pas dire que vous étiez plus investi, par exemple. Ou...
Bah, pour se protéger, j'ai rien dit. Effectivement, et la grève du zèle, c'est terminé de m'investir autant, je vais faire ce qu'on me demande. Mais ça tombe dans des formes de solitude au travail, d'isolement, il faut faire très attention effectivement à ce genre de choses.
Et est-ce que c'est pas difficile de savoir exactement ce qu'on vous demande? Est-ce qu'on sait toujours ce qu'on nous demande? Est-ce que quand vous dites
il y a des situations d'incompréhension, oui. Il y a des situations d'incompréhension à lever, mais une fois qu'on les a levées, et que ça reste toujours du dirigisme, il y a un moment où vous n'avez pas 36 solutions. Surtout si vous n'avez, surtout s'il n'y a pas réellement une entreprise en mouvement. Mmh. Ça dépend des situations hein, de l'entreprise. Je pars d'une entreprise où il y avait un redressement financier quand même à faire. J'ai refusé de le faire et puis voilà.
Mmh. Merci. Je suis en train de mourir.
Personne ne veut essayer le micro sans fil?
Ah si si oui.
Franchement oui.
Franchement, cette question du rapport entre la personne et la fonction, elle est... C'est tout le monde la vit. Hein. Il n'y en a pas un qui peut dire, moi, dans mon métier, ça ne se produit pas. Hein. Oui.
Je veux bien prends la parole. D'autant que l'exemple que vous avez donné au départ se rapproche de ma réalité professionnelle, puisque je suis assistante sociale dans une mairie. Donc, qu'est-ce que je peux bien en dire quand est-ce que je dépasse ma fonction, on va dire, et que je rentre un peu plus dans ce que je suis, on va dire, ça se présente très souvent, ça se présente au quotidien, même si effectivement j'ai un statut de fonctionnaire et que... Donc les personnes sont très souvent, donc les personnes en difficulté sociale qui viennent donc au service social sont très souvent reçues par des agents, des personnes d'accueil, je ne sais pas trop comment les appeler, des secrétaires très souvent dans notre domaine, des secrétaires médico-sociales, donc qui reçoivent donc ce public. C'est vrai que très souvent, bon, c'est des publics qui viennent en dehors des rendez-vous qui leur sont fixés, etc. Donc on a des formes de travail par rapport à ça qui sont peut-être trop rigides pour certaines personnes. Donc moi, à mon niveau, c'est vrai qu'il m'arrive donc très souvent d'aller à l'accueil sans que effectivement qu'on me le demande directement. Puisque je ne suis pas en première ligne. Donc c'est vrai que très souvent, quand les secrétaires m'appellent et que je vois qu'il y a des situations compliquées, j'ai l'impression d'être un peu plus moi-même quand je décide d'aller à l'accueil. Après, c'est vrai que c'est des situations qui sont très difficiles, et donc de rencontrer la personne à l'accueil. C'est vrai que c'est des situations qui sont très difficiles à gérer, puisqu'on se dit que c'est ce genre de situations qui sont très fréquentes et que c'est un métier donc aussi très difficile, où on est dépositaire de souffrances, de choses très dures, de demandes urgentes auxquelles il faut très souvent répondre. Pour les personnes, il y a aussi ce fantasme où la demande urgente, leur demande, leur ressenti est urgent et donc ils attendent une réponse souvent immédiate. Donc la difficulté donc pour moi en tant que professionnelle, c'est souvent effectivement d'arriver à trouver la juste mesure, de ne pas être effectivement de répondre justement trop vite, de façon trop immédiate à des choses. Donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est dur parce que il faut gérer ça dans le sens où c'est un travail qu'on fait sur le long terme. Donc c'est pas comme si j'étais sur une courte période en tant que bénévole par exemple, sur une mission entre guillemets Resto du Cœur. Non, là c'est complètement différent. Là je suis sur un travail où je me projette sur une certaine durée en fait en termes de temps avec les personnes. Donc ça renvoie à la nécessité de se protéger en tant que personne par rapport à des choses qui nous sont renvoyées qui sont très dures. Donc d'un point de vue personnel, qui font résonance souvent sur des choses, vous en parliez aussi, notre histoire, des choses. Voilà. Donc je peux vous donner cet exemple où il faut se déplacer, parfois il faut bouger son corps, vous en parliez. Il y a cet aspect-là. Du point de vue des refus, on est une profession qui est très réactionnelle. Donc oui, il y a beaucoup de refus qui sont posés. C'est vrai que vous parlez des infirmières. C'est vrai qu'il y a des professions peut-être qui sont un peu plus connues de ce point de vue-là. Mais les assistantes sociales, oui, sont très réactionnelles aussi et revendiquent beaucoup de choses. Donc c'est vrai que je pourrais vous donner un exemple, puisque tout le monde a entendu parler du RMI qui n'existe plus aujourd'hui. Mais il y a évidemment, par rapport à cette question... un positionnement fort qui a donc été donc qualifié comme un échec de ce dispositif, qui était donc le refus par un grand nombre de professionnels de signer des contrats d'insertion sociale avec les bénéficiaires d'allocation. Donc c'est vrai que le texte en lui-même ne positionnait pas le contrat d'insertion sociale donc dans la société comme une condition de versement de l'allocation au moment de la demande de la personne. Mais il se trouve que effectivement ça faisait partie des obligations que la personne prenait envers la société. Bon, il se trouve que il y a eu un positionnement fort. Enfin, je travaille en Seine-Saint-Denis depuis quelques années. À l'époque, j'étais stagiaire en Seine-Saint-Denis également. Et à l'époque, mes collègues étaient très clairs par rapport à ce principe. Elles avaient pris la position de ne pas signer, du moins dans le service dans lequel j'étais, de ne pas se faire signer systématiquement, puisque la question, c'était la question du contenu de ces contrats qui pouvaient ne pas du tout être... pouvaient être bidons, tout simplement. Donc elles ne souhaitaient pas, donc elles ont refusé. Donc, Donc il se trouve que le département de la Seine-Saint-Denis était plutôt... ouvert par rapport à cela, mais je pense que dans d'autres départements, ça devait se passer autrement. Maintenant, je ne peux pas trop en parler. Donc c'est deux exemples qui me viennent un peu à l'idée. Voilà.
Est-ce que, par exemple, vous avez l'impression, quand vous travaillez avec une personne qui vient vous voir, que vous faites les choses différemment de votre collègue. C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, je pense que je suis en train de bien gérer cette situation. Ou au contraire, vous avez l'impression de mal la gérer, que quelqu'un l'aurait mieux géré que vous. Mmh. Est-ce que vous sentez toute cette part d'adaptation, cette part d'implication personnelle que personne ne sait que vous ferez, enfin que votre employeur ne le saura pas, la mairie ne saura pas que vous avez fait ça, et donc vous vous dites parfois j'ai été trop loin, j'ai pas été assez loin, enfin vous sentez que quelqu'un d'autre le ferait pas de la même façon, que c'est votre façon unique de traiter le dossier de
cette
personne.
Oui, bien sûr, j'ai vraiment le sentiment que c'est la façon vraiment unique, mais qui n'est pas liée qu'à ma personne, qui est aussi liée au contexte, en fait, enfin au moment où cette demande ou cette problématique arrive, en fait, puisque je vais avoir à ma disposition un certain nombre de moyens que j'ai aujourd'hui, que j'aurai pas le lendemain, enfin que j'aurai pas eu le lendemain ou la veille. Je vais être dans une disposition, une humeur complètement différente ce jour-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une multitude d'aspects, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Après, c'est vrai que dans le rapport aux collègues, on en revient à la question de la solitude au départ. C'est vrai que le regard des collègues aussi est très important. Autant c'est ce regard justement qui peut nous animer à faire les choses bien aussi, puisqu'on est, je trouve, une profession assez soudée par rapport à ça. Et en même temps, ça peut créer complètement l'inverse, puisque j'ai en tête là le discours d'une collègue qui était complètement désemparée face à une situation de violence conjugale, et quand elle en a reparlé quelques mois après avoir traité finalement cette situation, parce qu'elle a accompagné cette femme pendant plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, mais quand elle en a parlé plusieurs semaines après, elle disait, mais je peux reprendre ces termes, mais je l'ai traînée, mais pendant des semaines et des semaines, parce que cette femme ne voulait pas être reçue à la mairie, donc elle s'arrangeait pour la voir ailleurs, enfin bon, elle avait œuvré justement de façon complètement atypique, et je la revois me dire, j'ai rien trouvé, quoi. J'ai rien fait. Et je me souviens de lui avoir dit, mais est-ce que tu as une obligation de résultat, quoi, finalement, par rapport à ça, parce que elle y avait passé un temps fou, émotionnellement, ça avait été terrible pour elle. C'est vrai que, pour le coup, vis-à-vis de son employeur, si elle avait dû cocher dans sa fiche de statistiques le type d'hébergement qu'elle avait trouvé pour cette femme, il n'y aurait rien eu à ce niveau-là, mais elle y avait passé du temps. Et émotionnellement, ça avait été très fort pour elle. Et au final, la réflexion qu'elle a eue vis-à-vis de son travail, c'était extrêmement négatif, en se disant qu'elle avait rien trouvé. Et c'est vrai que je suis sa collègue de bureau. Et trois semaines avant, j'avais une situation de ce type-là, où j'avais le type de la femme conjugale, le victime de violence conjugale, le type de situation, qui arrive... très très exceptionnellement, où la femme est venue déterminée avec ses bagages, ses deux enfants sous le bras, en disant moi ce soir je ne rentre pas chez moi, et là pour le coup j'avais un contact, puisque j'avais fait mon stage il y a quelques années dans une structure où je savais qu'on l'accueillerait s'il y avait de la place, et ça s'est fait, la situation s'est réglée en une après-midi, quoi. Donc je lui renvoyais l'expérience d'une situation similaire où tout s'était fait de fil en aiguille extrêmement vite, extrêmement bien, et elle avait une autre lecture de ce qu'elle avait fait, quoi.
Est-ce qu'il y a une... Bien de continuer sur cette question de l'appropriation et du débordement.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est peut-être dans ces moments-là qu'on est justement seul. Dans les moments où il faut qu'on trace cette ligne de partage entre la personne et la fonction, et que c'est compliqué, quoi. Donc moi, je suis prof, et sur la question donc de la personne, j'ai l'impression que je pourrais me faire bouffer tout entière par mes élèves, quoi. Mais vraiment absorber, phagocyter complètement. Et donc, il y a toujours besoin de poser des limites, parce qu'ils sont en demande d'aide, de soutien, d'engueulade, de pas engueulade, enfin de, truc très très contradictoire et très très affectif aussi. Je veux dire, moi j'ai toujours le petit signal d'alarme en disant à ces demandes qui sont affectives, il faut répondre professionnel, c'est-à-dire il faut répondre apprentissage, lecture, travail, etc. Mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là qu'on est seul, parce que c'est autant avec les autres, on peut partager, avec les collègues, etc., on peut partager des tas de choses. Et moi, tout à l'heure, à la question de la solitude, j'avais envie de dire, je suis jamais seule dans mon travail. Jamais, jamais, jamais. Parce que toujours, il y a les collègues, l'équipe de la classe, il y a la CPE, il y a le proviseur, il y a tous les gens avec qui on bosse ensemble pour porter une classe, hein, qui n'est pas du tout un cercueil, qui est un lieu très, très vivant, mais qu'il faut quand même porter, quoi, jusqu'à la fin de l'année. Donc j'avais envie de dire, moi je suis jamais seule, sauf quand ça s'arrête, c'est-à-dire à la fin de l'année, quoi. C'est-à-dire le jour des résultats du bac, on va voir, il y en a qui sont reçus, qui sont collés, et après on rentre chez soi comme un con tout seul, quoi. Voilà, et que c'est le moment de la solitude, il est quand le travail est fini. Et pour nous, il finit chaque année, même s'il recommence l'année d'après, chaque année il finit. Et puis après, avec la question donc du rapport entre personne et fonction, je me dis, là aussi, il y a un grand moment de solitude qui est comment je me dépatouille avec cette nécessité de tracer une ligne de partage entre ce que je donne de ma personne du point de vue affectif, du point de vue émotionnel, relationnel, à un élève qui en demande, et comment j'essaye de limiter ça, parce que c'est pas mon boulot. Je suis pas psy, je suis pas assistante sociale, je suis pas... Voilà.
Mais il y a une chose dont vous parlez pas. Quand on dit donner de sa personne, c'est pas seulement en termes de... Pour le prof, ça se pose beaucoup, la question affective. Hein. Mais c'est pas seulement sur l'aspect affectif. C'est sur l'aspect interprétation du métier. C'est-à-dire sur l'aspect même strictement professionnel, vous donnez énormément de votre personne, puisque vous êtes prof de quoi ?
De philo.
Bon.
En plus.
En plus. Donc, on peut imaginer que deux profs de philo ne sont pas les mêmes. Nous, on a tous été... pas tous, mais certains d'entre nous ont eu des profs de philo. C'est relativement déterminant pour un élève, un prof de philo. Il n'y a pas que, mais le prof de philo, c'est celui par lequel... dont on ressort névrosé à vie ou libéré ou je ne sais pas quoi. Et c'est quand même ça veut dire que donc, même sur un plan strictement professionnel, les variations de votre rapport à votre matière, votre rapport physique à la matière, est absolument déterminante. Et ça, c'est votre personne subjective là, qui joue. Hein.
Oui, mais ça se partage aussi. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, parce que moi, j'ai le plaisir de travailler, d'être cobaye dans une expérience de l'équipe d'Yves Clos, là, sur l'analyse du travail enseignant. Et je veux dire que... Mais même en dehors de ça, c'est-à-dire que cette question-là, comment personnellement, j'investis ma fonction, mon métier, comment je le conçois, comment je le porte vis-à-vis d'élèves, quel rapport j'instaure entre ma discipline et puis comment je porte ce rapport-là, comment j'essaie de le faire vivre aux élèves. Oui, ça c'est entièrement personnel, mais ça peut se partager, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on parle, dont on discute, dont on sait qu'on a des styles différents, on sait qu'on a... on peut arriver à prendre conscience de ça dans la comparaison, la confrontation, la discussion avec les autres, de ce qu'on met de personnel là-dedans, c'est sûr. Mais c'est la question comment la personne investit la fonction. Ça, je pense que c'est effectivement, mais ça peut se partager aussi. Alors que le moment où on dit où est-ce que je pose la limite? Est-ce que je donne mon numéro de portable, par exemple, à un élève qui vraiment en demande? Voilà. Est-ce que je donne mon numéro de portable? Des fois, oui, des fois, non. Mais le moment où on décide ça, je trouve que là, on est très seul. Quoi. Quelqu'un d'autre pourrait
prendre le micro. Moi, sinon, je vais vous poser une autre question. Non, je plaisantais. J'aurais pu vous demander est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse d'un de vos élèves.
Oui. Oui.
Alors moi, j'ai pris un poste il y a 6 ans et j'étais pour la première fois responsable d'une structure culturelle, en l'occurrence d'art contemporain. Il n'y a pas plus subjectif dans la relation qu'on peut avoir avec le public, enfin entre le public et l'œuvre d'art. Et donc évidemment, la position que nous on tient en tant que responsable de structure est une position qui va donner image en fait, ou qui va résoudre ou tenter de résoudre un certain nombre de rapports que le public peut avoir avec l'œuvre d'art. C'est-à-dire que s'il n'est pas détendu, on va essayer de le détendre, etc., pour qu'il lui-même soit tranquille, pour aller voir l'œuvre, etc. Donc nous, on a un travail d'accompagnement du public à faire. Ça, c'était pour parler du rapport de l'interface, qu'on est aussi un interface. Et donc, quand j'ai pris ces fonctions, je suis fonctionnaire, et donc je me suis dit, voilà, un responsable, ça doit être comme ça. En plus, on s'occupe d'art, donc il faut être très pointu et très cohérent dans sa façon d'être. Et puis voilà. Et puis, en fait, en évoluant, je me suis rendu compte que les gens, comme ils donnaient d'eux-mêmes dans leur relation à l'art quand ils regardaient une œuvre d'art, ils étaient dans une relation affective, ou qu'ils croyaient affective, ou intime, et je ne pouvais pas nier ça. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas dire je suis leur interlocuteur pour parler d'art, mais c'est que eux qui parlent, et moi, je ne me mouille pas dans cette affaire. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. C'est-à-dire que moi aussi, je vis avec un corps, je vis avec une parole, avec une expérience, avec une histoire aussi, avec des nuits ou je sais pas, ou des soirées qui font que le lendemain, voilà. Et donc tout ça, ça transparaît et ça fait de l'ici et du maintenant aussi dans la relation. Et donc j'ai beaucoup évolué par rapport à cette posture en fait que je pensais avoir ou devoir avoir en tant que responsable de structure. Et maintenant je suis beaucoup plus moi-même en fait. Et je me dis que on n'est pas un poste, c'est on habille un poste. Enfin, non, on incarne un poste, en fait. On incarne, c'est-à-dire qu'on va donner une coloration. On porte, en fait, l'utopie l'utopie du poste. Et c'est ça qu'on donne aux gens, c'est cette dynamique-là. Je ne sais pas si je suis claire entre l'évolution de ma carrière.
Oui, très bien, oui. Très clair, oui. Enfin...
Donc, en fait... Maintenant, je ne suis pas seulement telle personne, comment ? Ils ne viennent pas me rencontrer, ils viennent me rencontrer moi en tant que responsable de structure, enfin, vous voyez, enfin, en tant qu'interlocuteur, quoi, enfin, comme assistante sociale ou je ne sais pas quoi. Je suis aussi moi-même, je ne suis pas que la responsable de structure.
Vous êtes devenue interprète, vous êtes devenue comme un violoncelliste qui joue la partition, mais qui le joue à sa façon.
Oui. Comme eux aussi sont les... Oui.
Oui.
Oui, du coup, je voulais rebondir. Là, par exemple, dans le cadre de ce métier où on est haut placé dans une institution culturelle, etc., on est véritablement interprète d'un métier, d'une profession. Et surtout, je pense que pour être une profession comme celle-ci, il faut avoir c'est aussi une personnalité qui est recherchée, c'est un regard. C'est donc un investissement personnel qu'on demande à ce genre de enfin, je pense... Non, mais enfin, après, j'en sais rien, c'est juste parce que je pensais à ça. Et je rebondissais juste sur ce que vous disiez, sur le fait d'être dans une posture et de penser devoir incarner un poste. Donc, du coup, il y a tout ce qu'on pense devoir faire, agir, parce que c'est le poste qui le demande, donc que ce soit direction ou d'autres postes. Dans des professions comme ça, c'est sûr qu'il faut l'incarner, il faut affirmer sa personnalité dans ce genre de poste. Après, je pense à d'autres postes où le travail fait pas forcément aussi sens. Je sais pas, ça peut être je pense qu'une femme de ménage, elle peut pas mettre de sa personnalité, enfin elle le pourrait, bien sûr que si, pourquoi ne pas imaginer ça, mais dans des métiers de ce... Enfin, voilà. Et je le sais, quand j'étais étudiante, j'étais femme de ménage, donc je sais que je ne pouvais pas mettre de ma personnalité dans mon passage de balai à l'hôpital. Donc, du coup... Pardon. Oui, enfin, je rebondis encore parce que tout à l'heure on parlait donc de cette incarnation, donc on parle d'une espèce de, enfin, du coup j'en reviens un petit peu au théâtre, etc. Mais à cette idée de personnage, quand on est dans le travail, on va prendre la peau d'un personnage qui est notre personnage de travail. Alors où est la frontière entre l'intime et ce personnage-là? Où est le moment où cette peau risque de devenir notre vraie peau à nous? La peau du personnage du travailleur. Enfin voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc c'est vrai que tout ça est très mince, mais c'est toujours très très risqué de tout d'un coup lancer son corps dans le travail, de donner son corps dans le travail, de mêler ses émotions, enfin après on peut rentrer dans ces émotions, ces fluides, c'est tout ça, c'est vraiment de se... C'est... Enfin voilà, je rebondis un peu. Vous pouvez pas répondre un petit peu?
on attend aussi peut-être d'autres réactions. Enfin, je sais pas, peut-être Yves, tu veux peut-être prendre.
Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont un métier un peu plus. Comment dire? Non, mais non, je ne veux pas mon marché. Non, je. Tout à l'heure, vous parliez des métiers subordonnés. Enfin, voilà.
Oui, depuis un moment, je suis étonné parce que tout ce dont on parle ce soir, là, toutes les personnes qui ont pris la parole, c'est pour parler d'un métier qui a un rapport généralement avec la culture. Et bon, c'est évident donc par rapport au thème de la soirée. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qui peut être apporté dans ce domaine-là à des métiers beaucoup plus simples. Je pense à un chauffeur de bus, à une caissière de Carrefour. Ils ne sont pas là ce soir, non? Et je pense que c'est ça qui pourrait peut-être faire avancer le débat, parce que pour l'instant, c'est bien, chacun donne son avis, mais je ne vois pas très bien ce que ça peut apporter à Nicolas. Et donc, je donne la parole à Nicolas.
Non, mais ce n'est pas à moi qu'on apporte, c'est à nous. Enfin, vous n'êtes pas là pour... Parce que vous avez l'impression de ne pas vous apporter, là? Moi, je trouve qu'on réfléchit bien, là. Non? Oui.
Ouais.
Allez-y.
Moi, je voulais intervenir par rapport à ce que disait la jeune femme là, sur les femmes de ménage et le désintérêt qu'il pouvait y avoir à être femme de ménage. Alors, il se trouve que j'ai parlé avec une dame qui est femme de ménage aujourd'hui, cet après-midi, là, et que je pense qu'effectivement, faire du ménage dans les bureaux quand on est tout seul... Ça ne doit pas apporter beaucoup. Mais cette femme, justement, qui est arrivée en France assez jeune et qui était quasiment illettrée, etc., ce qu'elle me racontait sur ses expériences de ménage dans des familles, c'était beaucoup plus... Enfin, elle a appris, par exemple, elle est allée dans des familles qui avaient tel type de religion ou telle autre. Ou telle, et elle a un esprit, elle a beaucoup observé, elle a beaucoup appris des relations qu'elle avait avec les uns, avec les autres. Alors, je ne dis pas que c'est le ménage en soi qui est fascinant. Ça, il y a beaucoup de femmes ici qui y sont contraintes. Et voilà, peut-être les hommes aussi. Mais du coup, effectivement, ça dépend de la manière dont on habite sa fonction. Quand on peut tisser des liens, qu'on est homme ou femme de ménage et qu'on tisse des liens, il peut se passer des choses, quoi. Effectivement, les personnes qui sont condamnées à faire les bureaux le soir, etc., je ne suis pas sûre qu'elles aient ce même intérêt. Voilà, c'était juste cette réflexion de... Quel que soit le métier, on dit qu'il n'y a pas de saut métier, mais il y a quand même une manière de tirer le métier de manière à ce qu'il apporte un petit quelque chose. Quoi. Alors c'est ça, c'est la version optimiste des choses.
Jusqu'à quel point on peut mettre de l'intime dedans ?